Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter aujourd'hui un bout de l'histoire de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est là assis en face de moi. Bonjour Thierry Ardisson.
Bonjour, bonjour Christophe, tout va bien?
Ouais, vous me direz si tout va bien après. J'ai bâti mon histoire à partir de votre livre, évidemment, Confession d'un baby boomer, paru en 2005. Et comme évidemment je ne pouvais pas tout raconter, j'ai choisi le passage le moins connu de votre vie, c'est-à-dire le début, le tout début de votre naissance jusqu'à votre rencontre avec Daniel Filipacchi. Et ça va me permettre de répondre à une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Comment ça se fabrique, un hardisson? Et aussi, quel est votre petit moteur? Qu'est-ce qui vous fait avancer depuis toujours? Et je crois que j'ai trouvé la réponse dans ce bout d'histoire. Voici la fabrication de Thierry Ardisson, une histoire réalisée par Céline Levras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La scène se passe en 1976 dans la salle de rédaction d'un magazine parisien ultra branché, Façade. Un journaliste goguenard brandit un passeport.
Hé les gars, regardez, Thierry Ardisson, lieu de naissance, Bourganeuf dans la Creuse. Ben alors mon Thierry, t'es creusois? Pourquoi tu dis que t'es né à Nice? C'est quoi ce bobard?
Ben oui, c'est vrai qu'il dit qu'il vient de Nice. C'est toujours plus chic que Bourganeuf dans la Creuse. Mais en même temps, c'est un demi-mensonge, hein. Sa mère Renée, dite Mickey, est niçoise. Et son père Victor est de Saint-Laurent-du-Var. Ils viennent du sud. Là-dessus, il ne ment pas. Mais son père étant conducteur de travaux, ils passent leur vie à déménager de chantier en chantier. Et c'est comme ça que Thierry est né dans la Creuse. À part ça, c'est une famille unie, les Ardisson. Le petit Thierry a une relation fusionnelle avec sa mère. Mais physiquement, ah, c'est à son père qu'il ressemble, hein. Brun, élégant, souriant. Le père, c'est une vedette, comme on dit dans le midi. Qui, de temps en temps, au café, monte sur la table, figurez-vous, pour faire des claquettes. Le père adore Fred Astaire, et Gene Kelly, et Ginger Rogers, et aussi Cab Calloway.
How'd you like to know your top? Dig yourself some fine rebop. Hidey-ho, hidey. Oh, the hidey-ho, man, that's me.
Le père est un toqué d'informations. Il écoute Europe numéro 1, oui monsieur, et il lit Paris Match toutes les semaines. Son rêve était de devenir journaliste. C'est la guerre qui l'a obligé à rentrer dans les travaux publics. Et c'est Thierry, son fils aîné, qui va réaliser son rêve. Je vous l'ai dit, les Ardisson déménagent tout le temps. Et en 1954, le père est envoyé en Algérie, sur le chantier de reconstruction de la base militaire de Mersel Kébir, près d'Oran. Et c'est là, en Algérie, que les Ardisson achètent leur première voiture, une Juva 4. Et à la Toussaint 1954, les voilà partis, innocemment, toute la famille, pour une balade dans les Aurès, en voiture. Et à un moment, ils ne s'y attendent pas, on leur balance des pierres. Ils doivent faire demi-tour. La guerre d'Algérie vient de commencer. Il reste néanmoins encore un an et demi, et là survient un drame. Je ne vous l'ai pas dit, mais les grands-parents paternels ont suivi. Le grand-père Marius travaille sur le chantier avec le père. Et un jour, il tombe, un camion lui recule dessus, il meurt écrasé. Et derrière ce drame se cache un autre drame. À partir de maintenant, la grand-mère, Marie-Louise, va vivre avec eux. Au début, encore môme, j'ai pas deviné toutes les conséquences. Les effets désastreux que cela aurait sur l'humeur de ma mère, et par ricochet, sur ma vie. Eh oui, c'était comme ça dans les années 50. Les belles filles se tapaient la belle-mère pendant toute leur vie, du lever au coucher. L'enfer. Et chez les Ardisson, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un climat pourri, lourd. La mère ne la supporte pas, mais elle ne dit rien, hein. à cause de son éducation, à cause de monsieur le curé qui dit qu'il faut pas se plaindre. Un soir, elle en a plein le dos. Alors elle va s'enfermer dans la salle de bain.
Mais enfin, Mickey, sors de là!
J'étais effondré, triste. Je traînais un spleen de petit garçon très proche de sa mère et qui la voyait devenir malheureuse. Et donc, en 1956, toute la famille, y compris la mémé Marie-Louise, quitte l'Algérie pour un nouveau chantier dans les Alpes, la construction d'un barrage à Arèche, une petite station de ski du Beaufortin à 1300 mètres d'altitude. Au passage, bonjour le choc thermique. Et dans le chalet, comme à Alger, la guerre reprend entre la mère et la belle-mère. Je suis l'innocente victime d'une erreur de placement familial. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Ce que je sais, en tout cas à 10 ans, c'est qu'en compensation de l'injustice de ma naissance, je serai célèbre. 10 ans! Et en attendant, pour le récompenser de son bachot, le père Ardisson offre à Thierry des vacances. Il lui file 3000 balles. C'est pas mal. Et Thierry choisit d'aller les dépenser au camping de Juan-les-Pins. On est en juillet 1966, il a 17 ans. Et une fois sur place, il finit par convaincre sa petite amie, Geneviève, de le rejoindre. Je dis sa petite amie, il n'a pas encore couché avec elle. Elle est pucelle. Elle arrive et pendant 2 jours, ils dorment côte à côte. Rien ne se passe. Il est fleur bleue, Thierry. Et puis un soir, Geneviève éclate en sanglots.
Écoute, Thierry, voilà. Pendant que t'étais parti, j'ai couché avec un garçon.
Il le prend en pleine poire. Et il lui dit...
Eh ben, casse-toi.
Et elle se casse. Et donc, il se retrouve tout seul, à déprimer sur la plage. Et un matin, il se fait draguer par un mec.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme?
Le gars s'appelle Johnny Honeywood. C'est le patron de Whisky à Gogo, la discothèque branchée de Juan-les-Pins.
Dis donc, Thierry, ça te dirait d'être notre nouveau disquaire, hein, Whisky à Gogo? C'est simple, hein, il suffit de passer des disques sans laisser de blanc.
Disquaire ou Whisky à Gogo? Il dit ouais tout de suite. Et c'est comme ça qu'il entre dans le monde de la nuit. Ce type m'a mis sur la voie de ce qui serait ma vie. De la musique, du spectacle, de la drogue, des voyages, des femmes, du sexe, du fric. Tout est parti de ce coin de plage de Juan-les-Pins pendant l'été 66. Thierry n'y connaît pas grand-chose en musique à la mode. Et le chef barman le prévient tout de suite. Hein.
Attention, hein. S'il y a une table mort, la salle se vide. Et si la salle se vide, toi t'es vidé.
Alors à 17 ans, Thierry apprend à jongler avec les 45 tours. J'ai entrepris de baiser tout ce que je pouvais. Mais cet été-là, il découvre aussi le monde un peu secret à l'époque de l'homosexualité. Quand la boîte ferme à 4h du matin, Johnny Honeywood embarque les garçons. Ils vont boire quelques verres à Cannes et en général, ça se termine en orgie. Est-ce que Thierry y participe? Eh bien non. Il regarde. Il reconnaît même que ça l'excite. Mais il reste spectateur. Il aura beaucoup plus tard une relation homosexuelle. Une, par curiosité. Et d'après ce qu'il dit, sans plaisir. Mais cet été-là, l'été de ses 17 ans, il se contente de mater. Bref, quand les vacances sont finies avec tout ça, il a changé notre Thierry. Il a beaucoup changé. Et en septembre 1966, le voilà donc étudiant à la faculté de lettres de Montpellier. Concernant mon cursus universitaire, faut que je te dise, j'ai menti toute ma vie. J'ai dit que j'avais une licence d'anglais, c'est pas vrai. J'ai jamais eu de licence. L'anglais, je l'ai appris avec les Beatles. Love, love me do. You know I love you. partir de ses 18 ans, dès qu'il a 3 sous, Thierry file à Londres. Paris, c'est la ville de Gaulle et de Guy Lux. Londres, c'est une monarchie illuminée par le rock'n'roll. Rien à voir. Les Beatles, les Stones, les Kings, les filles en mini-jupe, les chapeaux melons qui côtoient les cheveux longs, le Swinging London, c'est l'endroit où il faut être. Mai 68, Thierry le passe à Clermont-Ferrand, chez ses parents, à refaire le monde avec un copain en buvant du gros rouge et en baisant sur des matelas gonflables. Et puis arrive l'été 68. Et c'est là que Thierry conclut avec Christiane, une fille qu'il a dans le viseur depuis la terminale. Christiane sera sa femme pendant 10 ans et Christiane tombe enceinte. J'ai décidé de la faire avorter. Ça s'est passé sur la table de la cuisine avec une faiseuse d'ange de Marseille, à coups d'aiguille à tricoter. À la fin de l'année 1968, Thierry n'a pas de projet. Il zone à Issoire chez ses parents, mais il commence à cultiver un goût pour l'écriture, pour les mots, pour les formules, pour les répliques. Il sent que c'est ça son truc, jouer avec les mots. Récemment, il a participé à un concours de slogans pour les chaussettes STEM. Il a trouvé une jolie formule, hein. STEM, un peu, beaucoup, passionnément. C'est pas mal. Ça n'a débouché sur rien, mais ça lui a filé le virus de la pub. Ses parents veulent le faire entrer comme journaliste au journal La Montagne, à Clermont-Ferrand. Il veut aller à Paris, et donc, comme il dit, il déserte. Pendant 10 ans, je ne reverrai pas mes parents, ni le reste de ma famille. Je voulais qu'ils sortent de ma vie, ni père, ni mère, ni frère, ni grand-mère. Et donc il part un matin de 1969, seul, en stop, avec un sac et 50 balles en poche. Et le voilà à Paris. Il n'a aucun diplôme, mais il veut rentrer chez Publicis. Alors un matin, il se pointe au drugstore Publicis, en haut des Champs-Élysées.
Bonjour. Je voudrais voir quelqu'un pour du travail.
2 minutes plus tard, il est reçu par un type dans un bureau.
Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous avez fait votre service militaire? Parce que on pourrait vous engager, hein, vous former, mais dans un an, vous allez partir à l'armée, n'est-ce pas? Alors c'est pas la peine.
Il se dit c'est cuit. Et puis en redescendant les Champs-Élysées, au 73, il voit une plaque BBDO, agence de publicité. Alors il sonne, il monte, et en 2 coups de cuillère à peau, il est embauché. Pour 1000 francs par mois. Ah, les années 60, c'était plus facile. Et il se met à bosser sur le budget prise unique. Tout va bien. Enfin non, il y a Christiane. Elle vient de le rejoindre. Ils ont pris une location rue de Savoie. Mais elle a quelqu'un d'autre, Christiane. Toujours ce Alain. Un jour, le téléphone sonne, c'est Thierry qui décroche. Et au bout du fil, c'est Alain. Il se dit, je vais la perdre. Alors il va dans la salle de bain et il s'ouvre les veines avec un rasoir. SAMU, urgence et rendez-vous avec un psychiatre.
Vous êtes quelqu'un de créatif, jeune homme. Un peu artiste, quoi, hein? Le revers de cette médaille, c'est une difficulté à vivre. Alors l'analyse ou la médecine peuvent vous soigner. On peut vous donner des cachets qui vous rendront une certaine normalité. Mais la question est de savoir si vous désirez entrer dans cette normalité ou si vous choisissez d'assumer une certaine dose de folie, hein, et donc de mal-être.
Bonne question. Vous voulez la réponse ? Ce psychiatre est l'unique psychiatre que Thierry Ardisson va voir de toute sa vie. Il ne se fera jamais soigner, jamais. Il a choisi d'assumer une certaine dose de folie. Thierry épouse Christiane à Avignon en juin 1970, en blanc et à l'église. Et un jour, comme il fallait s'y attendre, arrive la convocation pour le service militaire à Limoges. Il y va. Et en arrivant, il dit
« Moi, je peux pas le faire, votre truc, hein. Je suis fou. »
On l'emmène devant le chef psychiatre
Ah, docteur, vous allez comprendre, vous, hein? Je suis vraiment fou, hein? Je peux pas faire l'armée.
Il a dû être convaincant, il est réformé. Revenu à Paris, Thierry passe de boîte de pub en boîte de pub, avec des salaires toujours plus élevés. Mais tout ça, pour lui, ça n'est qu'un amusant gagne-pain, comme il dit. Il veut écrire. Il pense que c'est la littérature qui va le rendre célèbre. Et donc, il part 3 mois en Grèce, sur l'île de Ios, et il revient avec un roman, « Ciné-moi », que les éditions du Seuil sortent en 1973. Il a 24 ans. Les critiques sont plutôt bonnes. Mon nom est sur la couverture. On me voit en photo. J'existe. Mais sur le coup, je m'aime. Ah ouais, je suis content de moi. Côté boulot, Thierry vient de rentrer chez TBWA. C'est le top niveau des agences de pub à l'époque. Il gagne 30 000 balles par mois. Et assez vite, il devient la vedette de l'agence. L'un de ses gros coups, c'est une campagne pour le fromage Samos 99.
Il faut un verre de lait comme celui-ci pour faire une portion de fromage Samos 99. Chaque fois que votre enfant mange une portion de Samos 99, il prend 38 mg du calcium nécessaire chaque jour à sa croissance et à son équilibre.
Et son idée de génie, c'est que quand le gamin de la pub mange du Samos 99, le niveau du verre de lait à côté de lui baisse. Mais à côté de ça, le démon de l'écriture continue de le travailler. Il veut faire un deuxième livre. Et donc en mars 1974, Christiane et Thierry vont s'installer à Bali, en Indonésie. Et Bali, dans ces années-là, c'est le rendez-vous de tous les défoncés de la planète. Il y a de la drogue partout. Et c'est là que Thierry se fait son premier shoot d'héroïne. C'est simple, tu n'as plus envie de rien. C'est le nirvana. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de baiser, tu n'as plus envie de réussir dans la vie, tu n'as plus envie de rien. Tu es dans un état serein. Le souci, c'est que les premiers mois, tu en prends pour être bien, et qu'après, bah t'en prends pour ne pas être mal. À cette époque-là, Thierry se trimballe avec plein de petites boîtes. Une petite boîte d'héroïne, une petite boîte de cocaïne, et une petite boîte d'herbe. Mais avec tout ça, il n'arrive pas à écrire. Et donc de Bali, il se tire à Bangkok, en Thaïlande. Et de Bangkok, à Vientiane, au Laos. À ce moment-là, Thierry consomme de plus en plus d'héroïne. Et au bout d'un mois, il n'a plus un radis. Il ne peut même plus se payer l'hôtel. Et il échoue avec Christiane dans un HLM miteux de Vientiane. Et un jour, il se retrouve même à faire la manche.
Bonjour, monsieur. Vous êtes français? Vous pourriez me dépanner de 1 000?
Au bout du rouleau, Thierry finit par appeler sa banquière au secours.
Allô, Madame Hennequin? Il faut me sortir de là, Madame Hennequin. Prêtez-moi du fric. Je vous le rendrai.
Et c'est donc sa banque qui paye le billet retour vers Paris. De retour à Paris, Thierry tente de se relancer dans la pub. Mais comme il le dit, il a mis les doigts dans la prise. Il est accro à l'héroïne. Il ne se shoote pas, il sniffe. Je n'avais pas du tout l'impression d'être malade. À l'époque, quand tu prenais de l'héro, tu étais un héros. Tu étais ce qu'on faisait de mieux. Sa femme, Christiane, lui dit « Arrête, arrête Thierry !» Elle le voit sombrer. Et d'ailleurs, il vient de se faire virer de son agence de pub. J'étais défoncé du matin au soir. Je devenais dangereux. Et ils décident tous les deux de changer d'air et d'aller aux États-Unis. À New York, d'abord. Sauf qu'ils descendent au Chelsea Hotel, qui est un repère de drogués, pour décrocher, je vous le dis, il y a mieux. Et puis en Californie, à Santa Barbara, chez un copain, Julian, qui a une belle maison face au Pacifique. Et là, il décroche. Là, il se refait une santé. Là, il fait du sport, lui qui déteste ça. Putain, les premiers temps, j'ai cru mourir des fois. À bout de souffle, une épave j'étais. Et quand il rentre à Paris, il ne se drogue plus. C'est une vraie renaissance. J'ai regardé Paris avec le regard des touristes japonais. J'ai commencé à trouver Paris beau. J'ai commencé à prendre du plaisir à vivre dans la ville lumière. Et c'est à cette époque que Thierry rencontre Alain Benoît. C'est un publicitaire qui vient de lancer un magazine branché, chic et snob, Façade. Façade, le magazine qui se lit le matin avant d'aller se coucher. Alain Benoît cherche quelqu'un qui sait écrire. Et Thierry, qui rêve d'approcher des gens comme Andy Warhol, Saint-Laurent, Brian Ferry, Salvador Dali ou Kenzo, se dit que c'est une occasion unique. C'est un moment capital dans sa carrière. Il se retrouve à travailler autour d'une table avec des mecs de sa génération que personne ne connaît encore, mais qui s'appellent Philippe Starck ou Jean-Baptiste Mondino. Il surfe sur l'air du temps. Et c'est à cette époque qu'il change de look. Fini le perfecto, les foulards, les broderies, Thierry adopte le costard neutre, gris anthracite. Il porte encore des polos Lacoste rouges et bleus, mais pas pour longtemps. On est en 1978. Thierry vient de créer une boîte de pub, business. Mentalement, c'est un killer. Depuis qu'il a arrêté l'héroïne, il est devenu dur. Il est capable de tout pour conclure une affaire. Il le dit lui-même. La pub, la presse, l'audiovisuel, ça cogne dur. Hein. Tu survis pas si tu sais pas frapper. De préférence le premier. Je ne m'embarrassais jamais avec les autres. Ou ils pliaient, ou ils dégageaient. Et donc d'entrée, il vire son associé.
Virer ? Oui, virer.
Et c'est dans ces eaux-là que Thierry commence à fréquenter le Palace, une boîte de nuit qui vient d'ouvrir rue du Faubourg Montmartre. L'endroit est fréquenté par tout un tas de célébrités. Grace Jones, Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Amanda Lear, Frédéric Mitterrand, Jack Lang, le couturier Kenzo et aussi de temps en temps John Travolta, Mick Jagger, Andy Warhol. Ceux qui font l'époque. D'ailleurs, c'est un peu ça hein, qui vient chercher l'époque. Parce qu'il n'est pas vraiment dans la bande, hein. Il est un peu à côté. Il n'est pas fêtard, il ne veut pas retomber dans les années héroïnes. Il l'a déjà donné. Et puis il a sa boîte à faire tourner. À cette époque-là, il est très ambitieux. Et donc, il est dedans pour renifler l'époque et un peu dehors pour se sauver. Bon, il tombe quand même dans la cocaïne, mais c'est pour se fondre dans cette micro-société. C'est pour l'observer, c'est pour s'en inspirer. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il crée des slogans qui ont marqué l'histoire.
J'ai 8 secondes pour vous dire que la Baroque Ovaltine, c'est de la dynamique.
Et la paire, il n'y en a pas deux. Ben, c'est lui aussi. Et cette pub pour Tropico, aussi. Mais déjà, la pub le lasse. À force de vendre des yaourts, dit-il, on finit par avoir du fromage blanc dans la tête. Et au bout de cette histoire, en 1984, un jour, il reçoit un coup de fil.
Allô ? Thierry Ardisson ? Bonjour, c'est Daniel Philippaki à l'appareil. Je voudrais vous voir.
Cette voix le ramène à l'enfance. Daniel Philippaki, il l'écoutait avec ses parents sur Europe numéro 1. Pour ceux qui aiment le jazz, salut les copains, c'était lui. La suite, vous la connaissez. La télé, le succès. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas ? Ça va Thierry ? Mission accomplie ou pas ? Vous vous reconnaissez ?
Ah, complètement. Mais ce qui est très bien, c'est que vous avez pris vraiment effectivement le cœur du problème, c'est-à-dire la révolte contre la famille, non pas l'envie de réussir, mais la certitude de réussir, sauf qu'entre les deux, il y avait une montagne à gravir. Et que quand je me suis retrouvé au pied de la montagne vers l'âge de 19-20 ans, comme vous le racontez très bien, je savais où je voulais aller, mais c'était un peu la face nord en hiver avec des tongs, quoi, parce que je connaissais personne. J'avais pas du tout de relation. J'étais un pauvre con.
Je pense que j'ai mis à jour votre petit moteur, qui serait donc de coller absolument à son époque. Alors c'est une nécessité évidemment quand on fait de la pub, mais j'ai quand même l'impression que ça dépasse l'objectif de rentabilité d'une agence de pub. Le bonhomme Ardisson a ce besoin de coller à son époque. Ou avait.
C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en déménageant tous les deux ou trois ans, il y avait des inconvénients. C'est que je perdais mes amis, j'ai pas d'amis d'enfance, j'ai pas de lieu, etc. Bon, donc ça, c'était le côté négatif. Le côté positif, c'était qu'en fait, quand j'arrivais quelque part, il fallait que je devienne copain avec les gens, que je me fasse une place dans la ville ou dans le village où j'arrivais. Donc ça m'a beaucoup appris en termes d'adaptation. Et j'ai un peu gardé l'habitude. C'est-à-dire, j'habite Paris, effectivement, j'ai jamais plus bougé de Paris. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de Paris, en fonction des époques, j'étais, sans obligatoirement le rechercher, mais il se trouve que j'étais là où
ça bouge.
Là quoi. Où c'était bien d'être. Voilà, après j'ai fait effectivement, comme vous l'avez laissé entendre, de la télévision. Maintenant je fais des séries, donc je suis toujours là.
Mais est-ce que ce petit moteur marche encore aujourd'hui, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une part de Thierry Ardisson qui dit fuck à la modernité?
Oui, il y a une part qui dit fuck à la modernité, parce que la modernité, malheureusement, c'est la chute de l'Empire romain, là. Donc, on n'est pas obligé.
C'est toujours ce que pensent les vieux cons.
On est, oui, je sais. Il paraît que déjà, au temps d'Aristote, il y avait des gens qui disaient que c'était mieux avant. Enfin, oui. Bon. Non, je pense pas que c'est mieux avant, mais enfin, il y a certains comportements qui sont quand même. Non, mais c'est vrai que mon moteur, c'est la revanche sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'allais au collège à Annecy, chez les curés, je me souviens quand on habitait à Chamonix.
C'est un passage que j'ai pas raconté.
Oui, mais qui est tout à fait dans l'esprit ce que vous racontez. Je passais devant des très belles propriétés, avec la maison de maître au fond, l'allée d'arbres, le portail. Et je me disais, mais pourquoi t'habites pas là, quoi? J'avais l'impression d'être le cygne né dans une famille de canards. Je me disais, mais comment, c'est quand même dingue que t'aies pas une baraque comme ça, quand même. Et après, quand j'ai écrit des livres, comme vous l'avez raconté, évidemment, premier livre au seuil, je me suis dit, d'abord, honnêtement, j'ai pris rapidement conscience que j'étais pas celui de Nietzsche, c'est-à-dire que j'avais pas un message à apporter à l'humanité. Puis surtout, je me suis dit, tu vas te faire chier comme un rat pour gagner pas d'argent, parce que les livres, c'est pas, c'est, on fait pas ça pour l'argent, quoi. Et donc, j'ai retourné ma veste, et comme disait Gainsbourg, elle était doublée de vison. Je suis allé dans la pub où j'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, toute ma vie, j'étais en fait partagé entre d'un côté souci de rentabilité, de bien vivre comme je voulais, et puis aussi mes rêves d'enfant, et petit. C'est, comme disait l'autre jour, j'ai interviewé Isabelle Nanty qui me disait « J'ai raté ma vie, mais je l'ai bien raté. » Moi, je pense un peu la même chose. C'est-à-dire, j'ai raté ma vie, mais je l'ai bien raté. C'est-à-dire, j'ai pas de regrets. Par exemple, j'ai interviewé Muriel Robin qui me disait « Moi, je voulais être musicienne. Après, ma mère a pas voulu. Après, je voulais faire du cinéma. Ça n'a pas marché. J'ai raté ma vie. » Je dis « Non, t'as pas raté ta vie. Bon. »
T'as fait une vie.
T'as fait une vie. Il faut accepter ce qu'on est. Moi, j'étais sans doute pas un grand romancier. Voilà.
Je veux qu'on parle de ce passage sur votre famille, Thierry, notamment le poids qu'a constitué votre grand-mère, qui vivait avec vous, qui a pourri, en quelque sorte, la vie familiale, celle de votre mère.
D'abord,
pour commencer. En fait,
quand vous avez vu votre maman pleurer tous les jours, alors peut-être qu'elle en rajoutait, parce que ma mère, c'est vrai qu'elle n'a pas eu une enfance facile non plus, elle était assez perturbée, faut pas. Mais c'est une question d'argent, en fait. Si on avait eu, à chaque fois qu'on déménageait, suffisamment d'argent pour prendre une maison à deux étages, on aurait mis ma grand-mère sur un étage et nous sur l'autre. Le problème, c'est que des fois, on se retrouvait dans des F4. Et donc, il y avait une pièce qui était prise par ma grand-mère. Et comme ma mère voulait pas que ma grand-mère soit avec elle, la pauvre femme, parce qu'elle est aussi à plaindre, évidemment, se faisait à manger dans sa chambre.
Et elle mangeait pas avec vous?
Elle mangeait pas avec nous, sauf le dimanche, qui était un jour épouvantable, parce qu'en général, au bout de 10 minutes, tout le monde s'engueulait. Enfin,
c'est très emblématique des années 50, parce qu'on magnifie toujours la famille des années 50, parce qu'on veut toujours ne se souvenir que ce qui était formidable dans la famille. Mais enfin, la présence des beaux-parents auprès des belles-filles était un truc insupportable.
Insupportable, et d'ailleurs, moi, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, je suis retourné dans la famille pratiquement 10 ans après, parce que pendant 10 ans, je voulais plus les voir. Et j'ai jamais eu un grand sens de la famille. Disons que ça m'a un peu, quand je vois par exemple avec mes trois femmes successives, quand je vois l'attachement qu'elles ont pour leur famille, moi personnellement, ça me manque, quoi, parce que je connais pas ce sentiment.
Alors il y a cette rencontre, ça aussi c'est un passage passionnant avec Johnny Honeywood.
Ouais.
À l'âge de 17 ans, à Jouant les Pins, vous êtes en camping, votre copine
m'a trompé.
Vous a trompé avant même d'avoir consommé. D'avoir consommé. Donc vous êtes un peu vexé. Et là vous croisez ce Johnny Honeywood sur la plage. Vous dites c'est lui qui m'a mis sur la voie de ma vie.
Bien sûr.
Ça veut dire que sans lui, ça ne se serait pas fait comme ça.
Je pense pas. Je pense qu'il m'a il a ouvert une fenêtre sur un autre monde. c'est-à-dire la nuit, évidemment, mais aussi, vous l'avez raconté, le Zanzibar à Cannes. La nuit, c'est la face cachée de la vie, quoi. J'ai découvert qu'il y avait une face cachée, en fait, que je connaissais pas.
Mais à 17 ans, vous étiez dans un camping à Juin-les-Pins, et donc vous aviez quand même... vous étiez pas boy scout à cet âge-là, quoi.
Non, mais si, j'étais assez boy scout. Non, j'étais venu avec le pognon que m'avait donné mon père, évidemment, mais je l'ai dépensé tout de suite.
C'est-à-dire que vous auriez pu virer prof d'anglais, par exemple?
Non, j'aurais pas viré... Je sais pas ce que je serais devenu, mais il est clair que d'un seul coup, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait toute une dimension du monde qui m'avait échappé jusque-là, et que c'était dans celle-là que je voulais habiter.
Et alors, c'est rigolo, parce que vous avez donc 17 ans, vous avez toujours vécu en province, dans des petites villes, des petits villages, un peu paumés, et vous vous retrouvez avec cet homosexuel triomphant, qui se tape plein de mecs au petit matin.
Ouais.
Vous partez pas en courant.
Ah, pas du tout, j'étais ravi, moi je trouvais ça extraordinaire, moi je trouvais ça, il y a des scènes orgiaques qu'on peut pas raconter à la radio, mais il y avait des trucs absolument incroyables, et je suis devenu en fait, après quand j'ai fait, bien plus tard évidemment, quand j'ai fait Paris Dernière, cette émission, on se promenait avec une caméra.
Je terminais un peu par des partout.
Voilà, moi j'étais me retrouvé dans l'élément de mes 17 ans. Je porte pas de jugement, moi, sur le sexe entre personnes consentantes, du moment qu'on est adulte, je porte aucun jugement là-dessus, donc je trouvais ça m'a dessalé, quoi, et puis... J'ai découvert la transgression, j'ai découvert le fait qu'on n'était pas obligé de se coucher, enfin des trucs.
Vous matez. Alors ça c'est quand même intéressant parce que tout vous portez à participer. D'ailleurs, un jour vous aurez une relation homosexuelle.
Mais c'est dommage d'ailleurs, mais j'aurais fait un très bon homosexuel. Franchement, je me dis t'es un vieux pédé, mais c'est-à-dire que j'ai ce côté, j'aurais pu l'être. Et puis comme vous l'avez dit aussi, donc ça m'autorise à en parler. J'avais un garçon qui me plaisait beaucoup au début que j'étais à Paris, parce que je travaillais avec Yves Navarre. Yves Navarre était quand même le grand écrivain homosexuel, enfin le premier qui a tout raconté. Et je travaillais avec Yves, qui était très sympa, et qui me dit, viens dîner à la maison, il y aura des copains et tout ça. Et je rentre avec un de ses copains, et le mec me rate, quoi, je veux dire. C'est dommage, parce que, encore une fois, ça aurait très bien pu se faire.
En même temps, vous dites que vous n'avez pas eu de plaisir dans cette relation-là.
Non, pas du tout, parce que le type a pas su y faire, ou parce que...
Ah, c'est de sa faute?
Ah bah oui, quand vous avez, je sais pas, à l'époque je devais avoir 20 ans, quand vous avez 20 ans et que le mec en a, je sais pas, 20 de plus que vous et qui ça se passe pas bien, oui, c'est quand même un peu de sa faute à lui quand même, là on peut pas dire, mais je veux bien avoir tous les torts, mais pas ça quand même.
Une fois de plus, il se passe pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Que devient Thierry Ardisson? Parce que, a priori, depuis tout petit, il a déjà ce petit moteur qui l'attire vers la nouveauté, vers l'époque, vers ce qui va vous amener à Londres, ce qui va vous amener...
J'ai fait un bouquin, enfin c'est pas un bouquin, c'est trois cahiers que j'avais collés ensemble avec une reliure, donc ça c'était censé être un livre, je devais avoir 10-12 ans, et c'était un recueil de nouvelles, parce que j'adorais les nouvelles. Et la préface, c'était Thierry qui interviewait Ardisson. Bonjour, monsieur Ardisson. Donc, vous venez d'écrire, ça s'appelait Fugue en gros bémol. Vous venez d'écrire Fugue en gros bémol, alors que raconte le livre et tout. C'est-à-dire ce que j'ai fait après à la télé pendant des années, je l'avais fait à l'âge de 10 ans.
Donc, la rencontre avec Johnny Honeywood, c'est une chance.
Bah, disons que ça m'ouvre les portes de ce que je pensais être mon destin, parce que j'ai toujours, bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que j'allais être connu. Donc, je me dis, ça va dans le bon sens, quoi. Ça va dans ce sens-là, parce qu'il était encore une fois comme vous l'avez dit, journaliste à la montagne. J'ai rien contre la montagne, entendons-nous, mais je me voyais pas journaliste à la montagne.
Thierry, je veux qu'on revienne sur ce passage. Donc, vous avez 24 ans, Christiane a un autre amoureux, et pourtant vous l'aimez, et donc, dans une grande théâtralité, vous coupez les veines, sans doute êtes-vous très malheureux à ce moment-là.
Très malheureux parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, j'étais au pied de la montagne, je savais pas du tout comment l'escalader, quoi, comment j'allais arriver en haut, et donc j'étais... perdu, je connaissais personne. Quand j'étais arrivé à Paris, j'avais une copine que j'avais connue à l'université qui me laissait dormir par terre sur la descente de lit. Et en plus, comme elle était pas top, j'avais pas vraiment envie de la sauter, donc je dormais vraiment par terre. Donc c'était la zone, quoi. Et cette Christiane, donc qui fut ma première femme, évidemment, était amoureuse d'un type formidable. C'est Alain Emery qui jouait dans Crin Blanc. C'était ce film dans Camargue.
C'était un beau gosse.
Il faisait du cheval. Il était musclé, il avait le visage buriné. Moi, j'étais un peu gros. et donc j'étais complètement perdu. Et donc, pour lui dire à quel point je l'aimais, donc je me suis ouvert les veines. Sauf que, comme je fais pas les choses en moitié, je me suis bien ouvert les veines. Elle est revenue, elle m'a trouvé avec les mains dans la baignoire, avec le poignet dans la baignoire, quoi. Et on appelait le SAMU. Et ensuite, il y a eu une scène absolument terrible. C'est mon père est venu me voir. Et moi qui racontais à mon père, oui, moi ça fait 2 mois que je travaille, je gagne plus de blé que toi, t'as jamais su gagner d'argent, enfin vraiment la révolte, moi je gagne du pognon, je suis à Paris et tout. Et mon père vient me chercher à l'hosto avec des couverts en plastique et des grilles devant les fenêtres. C'était dur.
Et là, vous croisez le chemin d'un psychiatre.
Ouais.
C'est le seul que vous ayez, dites-vous, consulté de votre vie. En même temps, je l'ai trouvé assez formidable dans son diagnostic, le ouais. psychiatre, parce que, en gros, il vous dit, bon, ben voilà, vous avez une faille, vous avez une fêlure, on pourrait vous remettre d'aplomb en vous donnant, peut-être pas des antidépresseurs, parce que ça date d'après, mais enfin, quelques médocs pour vous stabiliser. Et en fait, vous rejetez ça parce que vous ne voulez pas être normal.
Non, parce que, comme je voulais être Rimbaud ou Baudelaire.
Fallait souffrir.
Je me suis dit, les mecs qui ont fait des grands romans, ils étaient cinglés. Les mecs qui ont fait des grands films, ils étaient cinglés. Voilà, donc je savais ça déjà. Je savais que c'était cette folie qui allait m'aider, en fait, ma créativité, en gros. Parce qu'après, ça fait quand même 50 ans que je vis de mes idées, rien d'autre. Et donc, voilà, j'ai dit non, je vais pas le faire. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens qui ont été extrêmement psychanalysés, moi, je les reconnais parce que on sent qu'ils ont tout raconté, qu'ils ont plus... Enfin, moi, je pense qu'il faut pas tout raconter. Je pense qu'il faut, pour en venir à Muriel Robin, que j'adore, mais ça se voit qu'elle a été psychanalysée à mort, quoi. Parce qu'elle a une façon d'être où on sent qu'elle a tout donné, quoi.
Donc, zéro regret vis-à-vis de la psychanalyse, qui était extrêmement à la mode dans ces années-là.
Tout à fait. Bah, les gens allaient voir le psy. Tous les gens de votre milieu allaient voir le psy. Comme on va faire du sport, on va voir le psy, etc.
Vous prenez ça pour une escroquerie? Pas loin.
Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt, sauf si on n'a pas d'amis. Si on n'a pas d'amour, je vois pas l'intérêt d'aller raconter Muriel Robin de raconter le jour qu'elle avait un psy qui s'endormait pendant les trucs. On peut dire que Muriel Robin en boucle, en bout d'un moment, même si c'est bien payé, tu dors. Mais c'est vrai que moi, je voyais pas l'intérêt d'aller raconter ma vie à un mec en le payant, quoi. C'est quand même, c'est un ami salarié.
Ouais.
Je veux dire, c'est comme la prostitution, vous payez une fille pour faire l'amour avec vous.
Alors ce choix, moi, je le comprends bien, ce choix de pas se soigner, de faire avec ce qu'on est, avec ses failles notamment, le prix à payer souvent c'est d'être invivable.
Mais le prix à payer c'était la drogue, c'est-à-dire qu'en fait...
L'héroïne c'est le prix à payer.
En fait le prix à payer c'était l'héro, puisque comme vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire que quand j'ai pris de l'héro, je me suis dit putain mais ça y est, tous les problèmes sont réglés là. Sauf que comme je l'ai aussi dit, au début on en prend pour être bien, après on en prend pour pas être mal. Donc c'est qu'à la fin je prenais un gramme d'héro par jour pour être dans l'état moins bien que dans l'état où je suis aujourd'hui, donc c'était complètement con. Mais j'ai cru à un moment que c'était la solution, l'héro, parce que c'est ce qu'il faut dire aux gens, d'abord, c'est de pas en prendre parce que c'est plus fort que vous. C'est comme Sega.
C'est intéressant de le redire aujourd'hui puisque l'héroïne est de retour.
Voilà, et c'est important de dire aux gens, ne mettez pas, moi par exemple, personne me fera fumer du crack. Parce que le crack, il paraît qu'après trois tafs,
bon.
On est accroché. L'héro, c'est différent. L'héro, il faut se donner un peu de mal parce qu'au début, ça fait vomir, c'est de l'opium, hein. Au début, ça fait vomir, etc. Et donc, faut dépasser les stades de vomissement. Mais enfin, bon, on le passe assez facilement. Et après, moi, je me levais le matin. La première chose que je me faisais, quand j'habitais rue de la Montagne Sainte-Geneviève, là, je me faisais une ligne d'héro avant d'aller bosser, quoi, je veux dire.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que quelques années après, vous allez tomber un peu dans la cocaïne.
Ouais,
mais pas de la même manière.
Non.
C'est-à-dire que là, on voit ce qu'est le hardisson. J'ai l'impression qu'on a connu à la télévision. C'est un type qui a un pied dedans, un pied dehors. Une part de folie, une part de raison. Un goût pour le n'importe quoi, mais aussi une aptitude à gérer des boîtes, avoir des collaborateurs, assurer des bénéfices et la rentabilité de ces boîtes.
Oui, vous avez raison. Vous savez, l'autre jour, quand Dominique Antoine a fait le livre qui s'appelle Thierry Premier, il a rencontré mes trois épouses, deux ex et celle du moment, qui est la dernière. Comme disait Gainsbourg, c'est pas la première, mais ce sera sûrement la dernière. Et si vous voulez, il a retrouvé une fille avec qui j'ai passé 2 ans à l'époque du Palace, qui s'appelle Wamé Schlumberger. Et je lui dis, ouais, elle te dira rien, Wamé, ça s'est mal terminé et tout. Il va la voir, elle lui dit, mais non, bon, c'est... Et elle a dit un truc très juste. Elle a dit, Thierry, il était avec nous toutes les nuits au Palace, parce que c'est vrai que je sortais du Palace, j'allais bosser, hein, il y avait plus... Elle a dit, mais Thierry, on sentait qu'il était là et pas là. C'est exactement ce que vous venez de dire, ce qui prouve que vous êtes très perspicace. Elle a dit, non, on sentait qu'il avait autre chose en tête, Thierry, que c'était un passage pour lui, le Palace. Mais qu'il était pas, alors que les gens du Palace sont restés dans le jus, quoi, je veux dire, beaucoup sont restés dans le jus, enfin, bon, Dino Star, ils ont fait autre chose, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés dans la bande du Palace.
On arrive au bout, Thierry. Aujourd'hui, quelle est votre méthode pour rester en phase avec l'époque? Est-ce qu'il y en a une, ou est-ce que vous avez renoncé?
C'est-à-dire, mon métier m'oblige à être en phase, m'oblige à m'intéresser à tout ce qui se passe.
À lire.
À lire, à regarder la télé, à lire des magazines, et à regarder Internet, etc.
Mais à partager l'époque dans la vie quotidienne?
Non, je sors beaucoup moins. Je sors beaucoup moins. Moi, c'était la nuit. Mais là, si vous voulez, déjà, on n'a plus le droit de fumer dans les boîtes. En plus, il faut dire la vérité, quand on va dans une boîte, c'est pour choper. Moi, je suis très heureux avec ma femme. J'ai aucune raison d'aller choper dans les boîtes de nuit.
Mais du coup, est-ce que ça peut vous angoisser, ça, de dire, bon, bah, comment est-ce que je continue à faire la télé d'aujourd'hui. Je me suis dit, par exemple, que le fait, on va pas revenir sur ce point-là, mais d'avoir pris Jerem Star, par exemple, comme chroniqueur au début de cette saison, comme symbole des youtubeurs, d'avoir pris Raquel Garrido comme incarnant la montée de la France insoumise, c'était ce besoin absolu de rester en phase.
Oui, bah, c'est normal. Je dis, je propose une émission avec des chroniqueurs des différentes origines. C'est normal que j'ai le youtubeur là. C'est un peu comme dans une série. Vous faites un casting avec le noir, le juif, le machin.
À l'époque, vous aviez aussi un robot sur le plateau.
Un robot. Non, mais je pense pas que je sois pas dans l'époque. Là où je suis plus dans l'époque, il faut pas non plus raconter n'importe quoi, je suis dans l'époque au niveau professionnel, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, comme je vous dis, c'est vrai que c'est très rare que je passe... Enfin, je fais des soirées chez moi, bien entendu, mais pas trop d'ailleurs. Mais vous savez, aujourd'hui, je vais avoir 70 ans le 6 janvier, il me reste 10 ans de bon, et j'ai envie de profiter de ces 10 années qui me restent, d'abord d'être heureux avec ma femme, évidemment, de faire en sorte que mes enfants réussissent, et c'est bien parti. Mais en fait, j'ai tellement d'idées à réaliser que j'ai un sentiment d'urgence et qu'il y a tellement d'idées que je veux mettre à l'antenne ou que je veux mettre à l'écran qu'aujourd'hui, ben, je suis un peu pris par le temps. Quoi.
Et le papier, alors ? Vous avez abandonné le papier ?
Écoutez,
parce que le livre avait l'air d'être une telle urgence dans votre jeunesse, l'écriture.
Oui, oui. Non, mais j'ai continué à écrire. J'ai fait un livre qui s'appelle Louis XX sur la monarchie qui a été un best-seller. J'ai fait Pivot, en parler de ma vie. Pivot, pour moi, c'est un aboutissement dans la vie. Faire l'émission de Bernard Pivot, mais attendez, c'est un truc des mieux qui me serait bien dans ma vie. J'étais relativement jeune, c'était en 86. J'ai écrit Baby Boomer, comme vous l'avez dit. J'ai écrit un livre d'histoire, par exemple, sur les... qui s'appelle Les fantômes des Tuileries, sur ces... parce que 19e siècle...
C'est pas avec ça que vous allez rentrer dans la littérature.
Ah, mais je n'ai pas envie de rentrer dans la littérature.
Trop tard.
Non, mais c'est trop tard. Et puis en plus, alors honnêtement, quand je vous dis que je veux faire des séries pour Netflix, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je vous dis que ça va arriver. En revanche, en anglais, en revanche, si je vous dis demain je vais écrire un livre et tout, j'aime bien écrire, là je fais un petit livre blanc qui est un manifeste monarchiste, j'aime bien écrire, mais pas au point d'y passer toute ma vie. Alors quand je serai très 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 âgé, j'aurai un chat sur les genoux, un plaid sur les épaules et j'écrirai. Mais l'écriture, je le mets le plus tard possible, voilà.
Merci Thierry Ardisson de m'avoir fait confiance.
Moi qui vous remercie.
En me confiant un bout de votre vie.
Mais c'est très bien raconté.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.